Amen. Merci Céline. Ouh. Bon, maintenant, il va falloir être à la hauteur de ses paroles. Non. Non, mais c'est vrai, ce que Céline a dit, c'est très important. C'est vrai que je suis merveilleux. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce qui est très important, c'est qu'on est ensemble, on est tous ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie. Je sais que des fois, quand je dis ça, il y en a qui bondissent. Mais si, il y a des leaders, machin. Non, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste que chacun, on a un rôle différent. Mais il n'y a personne qui est au-dessus de personne dans cette église. C'est juste que Dieu nous a chacun donné des missions particulières. Donc voilà, chacun, notre but, c'est de rentrer dans la mission que Dieu t'a donnée. Et si tu es dans cette salle ce matin, en fait, la mission que Dieu t'a donnée est aussi importante que celle qu'il m'a donnée, qu'il a donnée à n'importe qui dans cette salle. On a besoin de tout le monde, en fait, pour rentrer dans l'appel de Dieu et pour impacter cette ville de Montélimar et le Dauphiné. Amen. Ça, c'est très, très important. Eh bien, écoutez, je me réjouis d'être devant vous ce matin. Merci beaucoup pour le verre d'eau, pour tout ça, c'est merveilleux. Je me réjouis d'être devant vous ce matin pour continuer notre série sur les fondamentaux de la vie de disciple. Parce que, ben voilà, on sent, vous savez, être chrétien, être disciple de Jésus, par définition, c'est aller à contre-courant. Je ne sais pas si... certains sont, aiment la série The Chosen. J'ai oublié la télécommande là-dedans. La série The Chosen, je pense que beaucoup la connaissent, où vous voyez dans le générique des poissons qui petit à petit se colorent en vert et changent de sens et remontent le courant. Ben, en fait, c'est ça d'être disciple de Jésus. Et il y a beaucoup de choses contre lesquelles on doit remonter le courant. Mais bon, ça vaut largement le coup. Et du coup, cette série, voilà, si tu peux mettre juste la première diapo, après j'espère que la télécommande marchera, on va voir. Je vais tester tout de suite d'ailleurs. Tac. Peut-être ça ne marche pas, mais peut-être ça marche. Ah ben si, ça marche. Alors, c'est pas ce diaporama-là. Ça, c'est mon vieux message de il y a... Mais vous en êtes rendu compte, hein, vous vous rappelez bien de ce message. Hein. C'est pas grave. Bon, en tout cas, ça marche, ça c'est bon signe. Donc en gros, ce que je disais, c'est que vraiment, dans l'église, on s'est rendu compte avec les leaders que, en tant que chrétien, des fois, et surtout dans notre société d'aujourd'hui, qui est beaucoup tournée vers la consommation, vers le bien-être personnel, on veut toujours chercher des nouvelles choses, chercher des nouvelles révélations. Tout ça, c'est grandement facilité. Génial, Ben, merci. Par YouTube aussi, où on a accès à tous les meilleurs prédicateurs du monde aujourd'hui. Et ça, c'est super. Mais on s'est rendu compte que des fois, on veut découvrir des nouvelles choses. C'est comme si on n'était jamais rassasié. On en voulait toujours plus, d'un peu dans toutes les directions, comme si on avait besoin de ça pour vraiment être bien avec Dieu. Et que, en fait, au final, on s'est rendu compte que ce qui péchait parfois dans nos vies, c'était pas la dernière révélation, la dernière prophétie vraiment marquante qu'on a entendue, etc., etc. C'était les fondements, les fondamentaux, le B.A.B.A. Le B.A.B.A. de la vie de disciple, le B.A.B.A. de la vie de chrétien. Moi, j'aime le mot chrétien, mais j'aime surtout le mot disciple, parce que être disciple, c'est être des apprentis. Être disciple, c'est être des étudiants. Et encore une fois, pour citer cette série The Chosen, il y a beaucoup ce langage-là qui est utilisé, et j'aime énormément. On est des étudiants de Jésus, et on apprend à marcher à sa suite. Vous savez, si vous êtes dans cette église depuis un moment, et peut-être que vous allez être là demain soir à la soirée des nouveaux, mais que notre vision, les 3 A, adorer Dieu, deuxièmement, apprendre à vivre comme Jésus et aimer et servir notre ville. Mais apprendre à vivre comme Jésus, voilà ce que c'est que d'être disciple. Et apprendre, ben, c'est un apprentissage, comme un enfant qui apprend à marcher, à parler, à écrire, etc. On apprend et puis on se trompe et puis on recommence et puis on progresse. C'est ça d'être disciple de Jésus. Amen. Parce qu'on ne veut pas être des chrétiens, on ne veut pas rester des bébés chrétiens, des bébés disciples. On veut progresser. Et j'ai avant de lire mon texte principal, j'avais juste ce petit verset d'Éphésiens 4. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité. Ça, c'est un texte qui est en rapport avec les 5 ministères, vous savez, dans Éphésiens 4. Mais le but des 5 ministères, le but de l'appel que Dieu t'a donné, c'est qu'ensemble, on arrive à un état de maturité. Et je pense que trop souvent, on reste des bébés disciples dans certains domaines où on n'apprend pas de nos erreurs et on commet toujours les mêmes erreurs. Et Dieu veut nous enseigner. Et nous enseigner, mais pas seulement que ce soit un enseignement là, mais que ce soit vienne là et que du coup, ça transforme toutes nos actions. Amen. et que du coup on soit plus. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu dans cette série. Alors j'en ai oublié un, mais Olivier nous a parlé de la parole de Dieu. Après on avait parlé du besoin de remplir sa batterie dans 5 domaines de notre vie essentiels. Élodie nous a parlé sur le Saint-Esprit, Jonathan sur la prière, et puis Peter nous avait fait 2 super messages, un sur le silence et l'autre que j'ai oublié, sur Ruth, vous savez, sur l'importance de la communauté en tant que disciple. Donc ben, aujourd'hui, on continue cette série, et du coup, on va parler ensemble des bonnes fondations. Donc voilà, on va continuer sur cette idée de fondation. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi qui ai fait avancer, mais c'est peut-être toi, non Ben. Ah, c'est moi ? Ah génial, magnifique, ça marche. Les bonnes fondations. Donc on va lire... Oui, merci Olive, très important, moi... Dès que je ne suis pas là, parfois je suis absent, ben, dimanche dernier j'étais à Grenoble, d'ailleurs aparté, l'implantation de Connect Grenoble, ça cartonne, c'est extraordinaire. Pour ceux, on était, alléluia, remercions le Seigneur, le dimanche dernier on y était avec toute une équipe, Brice a prêché, on a eu un temps de ministère juste incroyable, j'ai prié avec un monsieur, un ancien prisonnier, on priait ensuite, il y avait une mare d'eau entre nos pieds alors qu'on priait ensemble tellement il pleurait, et ça c'est qu'un petit exemple, mais il s'est passé tellement de choses, l'église grandit en maturité, il y a plein de personnes qui se lèvent pour servir, donc voilà, c'est aussi votre témoignage, tout ce qui se passe à Grenoble, donc merci Seigneur. Tout ça, ce que je disais, c'est que je ne suis pas toujours là le dimanche, mais ce qui est énormissime, et j'aimerais bien aussi qu'on applaudisse encore Estelle, je ne sais pas si elle est toujours dans la salle, si elle est là-bas au fond, et Yannick, parce que chaque lundi que Dieu fait, vous avez l'enseignement du dimanche qui vient de passer pour écouter ou réécouter. Et franchement, avec la qualité des messages qu'on a en ce moment, je vous invite vraiment à les écouter et à les réécouter. C'est vraiment du solide. Et comme ça, on reste ensemble aussi. Comme ça, parce que YouTube, etc., c'est génial, mais les gens de YouTube, ils peuvent être à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Nous, on est ensemble ici à Montélimar, et c'est ensemble qu'on a une mission pour Montélimar et le Dauphiné. Du coup, c'est important qu'on soit ensemble dans ce qu'on écoute et dans ce dans quoi on grandit. Amen. Donc, on va lire ce matin dans Matthieu. Peut-être que certains ont mis en application ce que Olivier nous a exhorté à faire, c'est-à-dire de venir avec nos Bibles papier. Mais peut-être pas. Et je ne vois pas beaucoup de bras bouger, donc je me dis que peut-être pas. Et ce n'est pas grave, parce que j'ai pour vous le texte biblique ici, dans Matthieu 7. Voilà, bon, c'est un peu écrit petit et tout, mais bon, c'est une punition, vous n'avez qu'à venir avec votre Bible. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu envie d'être transformé en un super enseignant, donc j'ai acheté la même Bible que Peter. J'espère que ça va faire de moi un bon enseignant aussi. Elle est magnifique, merci. Merci Peter pour le tuyau. Alors on m'a conseillé cette version aussi, donc voilà. Donc Matthieu 7, à partir du verset 12, c'est un peu long, c'est jusqu'au verset 27. Donc, c'est Jésus qui parle, hein, je remets dans le contexte, on est dans la fin du sermon sur la montagne. L'évangile de Matthieu, en gros, est articulé autour de 5 grands discours, prédications, en gros, de Jésus. Et ça, c'est le sermon sur la montagne, un de ces 5 discours. Et là, on est sur la fin de ce sermon qui a changé le monde. Amen. Donc, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous... » Alors, ce ne sera peut-être pas ma version que vous avez là, mais ce n'est pas grave. « Vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je ne sais pas si je suis bien là. Tac. Voilà. Quiconque me dit, écoutez bien là, c'est surtout cette partie du passage que je vais m'appuyer. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. On a parlé d'être mature, ça c'est un autre synonyme, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, vous connaissez la chanson, hein, on l'a chantée à l'école du dimanche, je pense, la plupart d'entre nous. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée, deuxième fois, sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci Seigneur pour ta parole. Et franchement, c'est un passage qui rend assez humble. Et quand on le lit, eh bien, ça nous dérange. Hein. Jésus a ce don pour nous provoquer, nous titiller et venir un peu essayer de chambouler certaines de nos certitudes ou qu'on croit qu'elles sont des certitudes. Parce que Jésus veut qu'on soit des disciples matures et des disciples vraiment où on est seul avec lui, en fait, capable de grandir. Vous savez, on dit toujours l'authenticité, de parler, d'être entouré de chrétiens. Moi, je suis un fan de l'église locale. J'ai donné ma vie quelque part pour ça. Vraiment, j'aime ça. J'aime implanter des églises. Les églises, c'est génial. Mais les églises seront d'autant plus fortes qu'elles sont remplies d'individus qui sont solidement ancrés en Dieu. Amen. Et ça me rappelle un témoignage. Une fois, j'étais à Bedford. À l'époque, on était à Bedford. Vous savez, j'étais mal affermi un peu dans mon cœur. J'étais un peu justement dans une période un peu difficile et j'en parlais avec Olivier, etc. Et j'avais été voir Simon, que la plupart du coup maintenant d'entre vous connaissent. Et j'avais dit, mais Simon, tu t'occupes pas beaucoup de moi. J'aimerais avoir plus de temps avec toi pour échanger, pour te partager mon cœur, pour que tu m'aides, que tu sois un peu mon référent, mon... Et rempli d'amour, mais ça m'avait bien cassé aussi. Il m'avait dit, mais Mathieu, si tu savais le nombre de personnes qui ont envie que j'ai cette relation avec eux, évidemment c'est une très très grande église là-bas, il dit, tu sais, tu veux que je sois ton mentor. Mais il me dit, mais moi Mathieu, je pense que ton mentor, il faut que ce soit Jésus. Bam. Et sur le moment, ça avait été assez dur. Je me rappelle en reparler juste après avec Olivier, j'avais dû un peu ravaler ma salive. Mais avec les années, cette parole m'est restée, que mon mentor, ça soit Jésus. Parce que je me suis rendu compte que combien de fois on vit des situations et c'est comme si on dépendait d'autres personnes, d'autres grands ministères, d'autres, du pasteur, de machin, de tout ça, alors qu'en fait, avec notre Bible, en fait, tout est là. Dieu est là par sa présence, Dieu est là. Et en fait, on peut passer 99,9% des soucis qu'on a dans la vie juste dans notre relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Et du coup, ce que je vous invite ce matin, c'est, je ne vais pas vous donner une nouvelle révélation, mais déjà, si on pouvait, comme ce passage l'a dit, appliquer les enseignements qu'on a déjà reçus. On cherche toujours à découvrir des nouvelles choses, c'est bien, mais commençons à mettre en pratique, commençons à appliquer, et on va y revenir. Et ce message s'inscrit vraiment dans la lignée de ce que nous a partagé Peter la semaine dernière. Encore une fois, je n'étais pas là, mais j'ai écouté ça le lundi, et qu'est-ce que je me suis régalé encore. Merci Peter par rapport à ce silence. Et je me suis beaucoup retrouvé dans ce côté, toujours vouloir combler le vide, toujours vouloir avoir du mal avec ce silence, alors qu'on a besoin de... C'est ça, être mature aussi, c'est que même quand il n'y a pas de louange, même quand c'est le silence juste entre moi et Dieu, je ne cherche pas à combler ce vide. Mais comme le prophète Samuel, je dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et ça, c'est la maturité, les amis. Ça, c'est la maturité. Amen. Et du coup, Jésus, dans ce passage qu'on vient de lire, met en garde la foule contre le manque de sagesse, le manque de maturité sur le chemin de la vie. Il y a ceux qui, et on voit au verset 24, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Il y a ce côté homme prudent. Et Jésus met en garde, prudent ou sensé, c'est ça, être des disciples sages. Il dit qu'ils sont aussi peu nombreux ceux qui s'engagent sur le chemin étroit, mais très nombreux. Et le chemin étroit, bien sûr, qui amène à la vie, mais très nombreux sur le chemin large qui mène à la perdition. Et ceux aussi, malheureusement, qui écoutent et se laissent avoir par des faux prophètes, et ceux qui sont vigilants et prennent garde aux fruits qu'ils portent. C'est pour ça que nous, même, une aparté sur la prophétie, c'est vraiment important. Quand on reçoit une parole prophétique, qu'est-ce qu'on fait ? On la jauge, on l'examine et on la met en perspective avec la parole de Dieu. On ne prend pas les choses au pied de la lettre. Amen. Ça, c'est important pour ceux qui prophétisent et pour ceux qui reçoivent les prophéties. Et derrière, on ne vient pas dire, mais oh là là, lui m'a dit ça et du coup, j'ai été blessé. Non, jauge, c'est Dieu, c'est Jésus ton mentor. Ne prends pas ça au pied de la lettre. Reçois-le et mets-le en perspective avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus taxait souvent les pharisiens d'hypocrisie. Vous savez, parce que voilà, les pharisiens, ils se mettaient beaucoup en valeur quand ils priaient, ou même à la synagogue, ou même quand ils donnaient, vous savez, financièrement. Et Jésus avait horreur cette différence qu'il y avait entre le ministère public, qu'ils avaient très, très spirituel, etc., et en contrepartie la dureté de leur cœur, qu'on peut voir dans tellement d'épisodes, par exemple avec la femme adultère. Et ce qui est important pour Jésus, et là, encore une fois, là, j'essaye, on est dans ce côté maturité, ce côté vrai travail que Dieu fait en nous. Ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas ce qu'on montre publiquement, c'est ce qu'il y a au fond de nos tripes, au fond de notre cœur avec lui. Amen. Et du coup, ce passage, voilà, Jésus, il y a tous ces exemples, en gros, où il compare les insensés et les sensés, ceux qui sont sages et ceux qui manquent de sagesse. Et Jésus nous dit que si on veut... Dieu nous dit dans les proverbes, si on veut de la sagesse, il suffit de la demander. Et du coup, Jésus ensuite, dans ce passage que je viens de lire, si vous vous rappelez, il se dirige vers l'illustration. Alors là, c'est super, mais je ne me rappelle plus de mon PowerPoint, c'est pas grave. De la maison, bâtie sur le roc, ou alors pas sur le roc, et du coup, de deux types de fondations qu'on va voir ensemble ce matin. Donc je vous relis cet extrait du passage. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, fait beaucoup de miracles. Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. En allez-vous, vous qui pratiquez le mal. Et connaître Dieu, le mot connu, j'ai regardé bien sûr le grec, et il y a plusieurs mots grecs par rapport à ce mot connaître, mais connaître là, c'est vraiment pas une connaissance intellectuelle, c'est connaître Dieu dans le sens de l'expérimenter, et c'est un mot qui peut se rappeler qui peut être utilisé pour la sexualité notamment, d'avoir connu quelqu'un dans le sens même sexuellement connu. Donc c'est vraiment le mot connaître là, c'est pas une histoire de connaissance cérébrale, c'est vraiment une relation avec Dieu où on le connaît et il nous connaît, et on a un échange cœur à cœur. On dit toujours qu'on n'est pas dans une religion, mais une relation. Mais en fait, vous savez que le mot religion veut dire relation. Religion, en latin, ça veut dire relié. Et en fait, c'est ça. On est relié à Dieu. On est dans cette relation avec lui. Et du coup, Jésus dit aux disciples, mais c'est horrible, ils ont fait tout ça. Il dit, beaucoup viendront me dire, on a fait tout ça. Mais non, je ne vous ai pas connu. Et c'est pour ça que c'est important, en tant qu'église, de ne pas vouloir être... une église à la mode. Des fois, je suis sûr, des gens, voilà, on va des fois sur des sites internet d'église et on dit waouh, ils font ça. Ils font tout dans cette église. Ils ont tous les ministères pour tous les âges, pour tous les. C'est génial. Mais c'est pas ce que Jésus. Alors peut-être Jésus leur demande à eux ça, mais c'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande premièrement qu'on soit en relation avec lui, pas qu'on fasse des choses pour lui, mais qu'on soit avec lui. D'accord. Et il est là ce matin, mon cher Brice, désolé, je ne veux pas t'afficher, mais je voulais juste citer un petit truc que Brice dit souvent et qu'il a redit dimanche à Grenoble et qui m'a marqué. À chaque fois qu'on demande à Brice d'intervenir, il répète ça. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, mais j'aime Jésus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'illustration de ce que je vous dis. Moi, je suis pas pasteur, je suis pas théologien, mais j'aime Jésus. On peut faire tout ce qu'on veut pour Jésus. C'est pas ce qu'il veut en premier. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime et qu'on accepte son amour. Ok, les amis, ça c'est le plus important. Et du coup, voilà, on va passer sur deux types de maisons, deux types de fondations. Alors, est-ce que c'est celle-là qui arrive après ? Normalement, oui. Voilà. Donc ça, c'est les mauvaises fondations. Parce que si on reprend ce que Jésus vient de dire, doctrine, donc Seigneur, Seigneur, tu peux appeler Jésus Seigneur, ça veut dire que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois qu'il est ton Sauveur, qu'il est son Seigneur. Tu peux appeler Jésus Seigneur, en gros que ta théologie soit bonne, ta théologie soit carrée, c'est bon, tu es un bon chrétien, tu crois ça, c'est super. La deuxième fondation, c'est l'implication émotionnelle. En fait, quand on regarde la manière dont Jésus dit ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur », en fait, ceux qui s'adresseraient à Jésus et qui diraient juste ben, « Seigneur voilà, », et qui parleraient à Jésus, c'est une chose. Mais le fait de répéter deux fois, et ce « Seigneur, Seigneur » lui-même est répété deux fois dans le texte, ça veut vraiment dire qu'on est impliqué émotionnellement. Vous savez, ça me fait penser aux enfants quand ils viennent nous voir et qu'ils ont besoin de quelque chose, ils disent « Ah, oh, papa, 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 papa ». Waouh, c'est assez intense émotionnellement. Et en fait, nous, c'est comme si on disait à Jésus, Seigneur, Seigneur. Et ça, c'est une preuve d'implication émotionnelle. Et ça pourrait se rapporter. C'est Tim Keller, que j'écoute beaucoup en ce moment et que je lis beaucoup en ce moment, qui est vraiment super, un pasteur new-yorkais, qui explique ça. L'implication émotionnelle, ça peut être, par exemple, dans la louange, de danser, de chanter. Alors, encore une fois, mesdames qui dansaient ce matin, c'est extraordinaire. N'arrêtons surtout pas. Mais même ça, ça peut être une mauvaise fondation. Vous allez voir pourquoi. Et enfin, on a guéri les malades, on a chassé les démons. Et je ne sais même plus quel est le troisième truc. Pardon ? Ressusciter les morts, voilà. Et bien même ça, ça peut être une mauvaise fondation. Donc en gros, je redis, la doctrine, tu peux être chrétien, tu peux avoir une théologie qui est saine, tu peux être impliqué émotionnellement dans ta foi et que ça se voit, ça se manifeste par exemple dans la louange, et tu peux être très actif dans le ministère, faire énormément de choses pour Jésus. Et là, Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Parce que pour lui, encore une fois, je me répète, c'est pas ça le plus important. C'est comme si ces choses-là passaient après. Et en fait, tu peux faire tout ça et ne pas être vraiment chrétien. Tu peux faire tout ça et ne pas aller au paradis à la fin de ta vie. Et ça, ça nous interpelle. Ça dit, mais c'est fou. Comment c'est possible ? Tu peux avoir une bonne théologie, être impliqué émotionnellement dans ta foi et être vraiment actif pour le Seigneur et ne pas être réellement à lui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça le plus important. Ça, on parle, au début du passage, il parle des bons arbres qui portent les bons fruits. Le plus important, c'est ton cœur avec lui. Le plus important, c'est que ton cœur soit uni au sien et que tu sois dans cette relation avec lui. Parce que tu peux faire tout ça sans que ton cœur soit connecté au sien. Okay ? Et juste après, on va voir deux bonnes fondations qui nous garantissent, entre guillemets, qu'on est vraiment sauvé, qu'on est vraiment à lui. Et du coup, je vous laisse un peu avaler tout ça pendant que j'avale de l'eau. Amen, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et du coup, maintenant, on va passer aux bonnes fondations. Aux bonnes fondations qui sont citées dans ce passage. Voilà. On ne voit pas trop, mais je pense que vous voyez. Donc, la première, c'est appliquer sa parole. Et la deuxième, c'est la grâce. La première fondation, c'est appliquer sa parole. Comme je vous ai dit, on a plein d'enseignements, plein de choses, plein de « waouh, cet orateur est génial, waouh, Mathieu, ce qu'il a dit dimanche, c'était énorme », tac, 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 tac. On a plein de... On peut apprendre beaucoup de choses de Jésus dans notre cerveau, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui fait que Jésus est réellement ton Seigneur, c'est si tu vas mettre en pratique sa parole, si tu vas mettre en pratique sa parole. Verset 24, celui qui écoute ce que je dis et l'applique, et en gros qui obéit. Et en fait, je n'ai pas noté la référence, si je l'ai noté. En fait, il y a vraiment une notion d'humilité dans le fait d'obéir à Dieu. Parce que dans la société, l'homme veut faire sa propre volonté. On veut toujours, la plupart du temps, faire notre propre volonté. Vous connaissez Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Si tu veux, c'est ce que je pense que Jésus voulait. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et je veux mettre ce verset en perspective avec 1 Samuel 15, 22 aussi, où Dieu demande à Saül, de faire une certaine chose et il désobéit et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Non, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ces sacrifices, ça peut faire penser à ces premières fondations qu'on a vues. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la fameuse graisse des béliers de cet exemple. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. En fait, la première fondation, c'est d'appliquer la parole. La première fondation, c'est d'obéir à Dieu. La première fondation, c'est que c'est sa volonté et non la mienne. Et ça, les amis, tous les jours, on a des opportunités. Tous les jours. Et Dieu, il n'y a pas de souci, il nous laisse tranquille. Mais on a des choix à faire tous les jours, des petits et des grands choix. Tous les jours, comment on gère les ressources que Dieu nous a données, comment on gère notre temps, de quoi on occupe notre temps, qu'est-ce qu'il y a dans notre agenda. Ça, c'est des choix. Est-ce que j'obéis à Dieu dans ce qu'il y a dans mon agenda, ou est-ce que c'est mes désirs ? Est-ce que c'est ma volonté qui est reflétée dans mon agenda ? Si ce matin, je vous avais demandé, vous auriez quitté l'église, trouvé une autre, et vous auriez eu raison d'apporter tous vos relevés bancaires, et qu'on regarde chacun les relevés bancaires des uns des autres, ok, dans chaque ligne, qu'est-ce qui est ça ? Qu'est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de mettre l'argent pour ça ? Et qu'est-ce que c'est moi, ma volonté de mettre l'argent là-dedans ? Je suis volontairement, j'y vais volontairement. On a parlé l'autre fois de notre corps. Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on met ? Comment on nourrit notre corps ? À quelle heure on se couche le soir ? De quoi on remplit nos vies ? Mais ça peut être aussi avec nos enfants. Comment on traite nos enfants ? Quand les portes sont fermées, comment on essaye d'éduquer nos enfants, vous voyez, je ne suis pas du tout en train de vous mettre la pression, les amis. Mais il y a une réalité que tous les jours, on a plein d'opportunités d'obéir à Dieu ou alors d'obéir à nos propres désirs. Amen. Et donc ça, c'est très concret. C'est tout simple, ça. Il n'y a pas besoin de nouvelles prédications pour ça. Il y a juste besoin tous les jours d'un cœur soumis. D'un cœur soumis. Et c'est beau, la soumission. C'est beau, la soumission. Parce que ce n'est pas une soumission qui nous écrase. C'est une soumission qui nous élève à la stature de Christ. Amen. C'est beau cette soumission. Appliquer sa parole, lui obéir au quotidien. Et vous savez, ça va être la deuxième fondation, c'est la grâce. Quand on se trompe, ce qui est extraordinaire avec Dieu, et quand on ne fait pas sa volonté, mais qu'on vient avec un cœur repentant, pardon Seigneur, je me suis trompé, j'aurais dû faire ça, j'ai fait ça, pardon Seigneur. Un petit peu comme ce fameux Jonas, vous savez. Je ne lis pas l'histoire, mais vous connaissez. Il a fait sa propre volonté et ensuite il y a eu cette repentance. Et Dieu a fait grâce et lui a permis d'aller dans ce poisson pour ensuite appliquer sa mission. Dieu est toujours plein de grâce et nous permet de nous relever et de changer de posture et pour passer à l'obéissance et à vraiment l'observance de sa parole. Amen. On est ses apprentis, on apprend à faire sa volonté. Et là, pour le coup, des fois, les autres peuvent nous aider. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai ce choix, je dois choisir ça ou ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu ferais quoi à ma place ? Et puis, premièrement, comme j'ai dit, on peut demander à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que tu en penses ?» Des fois, plutôt que de choisir trop vite, de faire tel ou tel choix trop rapidement, « Jésus, qu'est-ce que tu en penses ? » On a tel choix à faire, tel choix financier à faire. « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ? » Combien je dois donner ? Qu'est-ce que je sais ? C'est du quotidien, c'est plein de décisions au quotidien. Et ensuite, la deuxième fondation qui est extraordinaire, Jésus, il y a un truc que je vous l'ai fait répéter quand je lisais, qui répète deux fois. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée une deuxième fois sur le roc. Et le roc, j'ai vraiment reçu ça. J'ai vraiment reçu cette révélation du Seigneur alors que j'étudiais ce passage. Le roc, c'est quoi ? C'est le rocher. Et Jésus, vous savez, il y a plein de versets qui nous expliquent que Jésus, en gros, est notre rocher. Il y a plein de versets qui parlent de Jésus comme une pierre. Vous savez, la pierre angulaire, il y en a plein, plein. Mais il y a un autre roc. Il y a un autre roc, il y a un autre rocher. Et peut-être que tu es dans cette salle, tu as eu l'opportunité d'aller à Jérusalem et de visiter un des sites qui, pour les protestants ou les évangéliques, serait peut-être un endroit très spécial de la Bible, où il s'est passé quelque chose de très important. Qui voit où je veux en venir ? Un rocher. Golgotha. Golgotha, qu'est-ce que ça veut dire Golgotha ? C'est le mont du crâne. Et le mont, pourquoi ça s'appelle le mont du crâne ? Ben parce qu'en fait, cette montagne était surplombée de ce rocher qui a une forme de crâne. Et quand je lisais ce passage, avoir sa vie fondée sur le roc, tout de suite j'ai eu ça qui m'est apparu en image. Voilà le roc, Golgotha. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le mont Golgotha ? Il y avait la croix de Jésus. La croix où il est allé. La croix où il a porté nos péchés. La croix où il a subi le châtiment pour tous nos mauvais choix et pour le péché qui nous rongeait de l'intérieur. Et le troisième jour, et on va bientôt le fêter, ça va être énorme, il est ressuscité sur ce roc. Il est ressuscité et il est devenu le roc. Amen, les amis. Ça, c'est la deuxième fondation, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que Jésus le répète deux fois. La grâce de Dieu, c'est la fondation ultime à la croix de Golgotha. Parce que si ton identité est basée sur tout ce que tu fais, sur toutes les trois premières fondations, le vent, la pluie, les mauvaises circonstances vont venir et tu vas tomber et tu vas te tiédir. Mais si ta vie est basée sur le roc, en fait, il y a un choix là à faire. Soit ta vie est basée sur ce que toi tu fais, soit ta vie est basée sur ce que lui a fait. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça la fondation de la grâce. Amen les amis. C'est pour ça que la grâce, est non seulement c'est une doctrine centrale dans notre Église qu'on veut prêcher jour après jour, mais surtout qu'on puisse l'incarner. Qu'on puisse l'incarner dans nos cœurs et puis pour les gens qui sont autour de nous. Qu'on soit des personnes de grâce, des personnes qui acceptent la grâce de Dieu pour nous. Et du coup, par conséquent, des personnes qui peuvent être une source de grâce pour les gens autour de nous. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. En fait, appliquer la parole de Dieu, c'est possible que si on est dans l'amour de Dieu. Si on applique en se forçant Dieu, ça ne l'intéresse pas. Si vous m'aimez, gardez mes commandements dans Jean 14, verset 15, sur ce que lui a fait. Et Luc 7, 47 nous dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ça, c'est la femme adultère, vous savez. Elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et elle n'est pas là, elle est en train de s'occuper des enfants. Je voulais parler d'une autre personne de l'église que j'ai la joie et le privilège d'avoir en stage avec moi en ce moment, c'est Ophélie. Vous pourrez lui dire après, ça l'affichera peut-être un peu, mais ce n'est pas grave. J'étais émerveillé parce qu'elle m'a dit qu'elle s'occuperait des enfants ce dimanche quand on était en tournée d'infirmiers ensemble. Et je lui dis, ah ben, si tu veux, je te fais mon message en avant-première. Entre deux patients, je lui ai partagé mon message. Et en fait, c'était extraordinaire parce que quand je lui ai partagé ces derniers points, ces deux fondations, elle s'est effondrée en larmes dans la voiture. Et ça m'a tellement touché parce que j'ai dit, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Ce n'est pas l'histoire d'émotions bon marché, non. C'est qu'il faut que ça nous touche, la grâce de Dieu pour nous. Et si tu contemples la croix de Jésus, mais que ça ne te fait rien à l'intérieur, il y a un souci. Il faut y revenir. Il faut que tu demandes au Seigneur de te révéler son amour et révéler sa grâce. Je me rappelle, je vais arrêter avec ça, en 2005, je crois que c'était, que j'étais en Afrique du Sud. À l'époque, je faisais une école de disciples. Et pour la première fois, j'ai vu le film La Passion du Christ. Et ils avaient organisé une projection dans l'église où j'étais. Et j'avais, je ne sais plus quel âge j'avais une vingtaine d'années. Et ça suivait une période de ma vie où je m'étais éloigné de Dieu. Et par cette école de disciples, j'avais vraiment eu l'opportunité de revenir à lui et d'être touché par sa grâce. Mais le jour, je me revois encore aujourd'hui dans cette salle, dans cette projection, et vers la fin du film, ce moment où Jésus est crucifié après avoir été torturé par les Romains, comme il s'est réellement passé. C'est moi qui avais une flaque de larmes en dessous de mon siège tellement j'étais bouleversé par la grâce de Dieu pour moi. Et en fait les amis, quand on réalise la grâce de Dieu pour nous, notre vie ne peut plus jamais être la même. Les amis, si tu es ce matin sur cette chaise devant moi, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si tu respires, si ton cœur bat ce matin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, En fait, on n'est rien du tout, quoi. On est poussière et on est plus que poussière, on est misérable. On est dans le péché et puis on n'est pas bien, on ne vaut pas grand-chose. Mais par la grâce de Dieu, on devient des nouvelles créatures. Notre identité peut être transformée et on peut être libéré de tout ça. Et là, du coup, porter du bon fruit. Là, faire plein de choses pour lui. Mais ça se déverse. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen, les amis. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?